Bienvenue à Polysécure. Cet épisode, je suis avec Vincent.
Salut tout le monde.
Concentre les chemins plug. La principale, c'est le Sécure qui aura lieu le 15 avril 2021. Et le 16 avril 2021, il va peut-être avoir une petite surprise à laquelle on va vous annoncer probablement dans les prochaines semaines. Question de filer quelques affaires, fait que ça risque d'être assez sharp. On va aller directement les nouvelles, puis pas vraiment les nouvelles-ish, opinions aussi. Dans les dernières semaines, il y a eu une profusion de fuites de données, d'attaques, de choses, dans lesquelles ils ont en fait reconsidéré énormément l'état de la cybersécurité. L'élément principal au Québec, on a eu Beneva qui malheureusement a subi un incident de sécurité majeur, dans lequel je n'ai aucune information privilégiée, mais qui publiquement a été vue, puis on était à peu près une semaine-ish en dehors, en fonction complètement. J'espère que ça s'est bien passé pour eux autres. On va en discuter un peu dans le grand ensemble, dans le grand chemin des choses, mais sans dans le spécifique de ce qu'ils ont vécu. Peut-être plus en termes de gestion d'incidents. Au moment où on enregistre, Promutuel est encore, eux aussi, dans un état d'attaque qui les déstabilise beaucoup. Ce qui est aussi un événement malheureux. Puis, tu sais, je leur souhaite beaucoup de chance dans la gestion de l'incident parce que ce n'est pas simple. Puis, en plus, on a connu, puis notre ami Damien a justement spécifié que beaucoup d'attaques sont dirigées vers le Canada ces temps-ci. Fait que c'est probablement les cibles de ces attaques-là qui sont touchées. Fait que ça, c'est l'état au niveau canadien. Au niveau mondial, il y a eu l'attaque sur SolarWinds qui a été, en ce sens, désastreuse pour beaucoup d'organisations parce que SolarWinds est un produit d'une très bonne qualité qui est utilisé par beaucoup d'organisations. Et ce qui est arrivé, c'est qu'un acteur étatique, puis là, je n'irai pas dans l'analyse, puis je m'en cache même pas, je n'ai pas lu en profondeur les 10 articles parce que l'intérêt n'est pas d'aller jusque-là, mais l'intérêt de comprendre, à mon sens, qu'est-ce qui s'est passé puis comment on doit agir par rapport à ça. Le fait de SolarWinds, c'est qu'il y a un acteur étatique qui a réussi à injecter des versions malicieuses du logiciel dans le système d'update de la compagnie. Étant donné, ça fait que là, tout le monde qui mettait à jour automatiquement leur logiciel, et ce qu'on dit en sécurité de fer en plus, hein. Fait que là, on se trouve dans une dichotomie très intéressante. C'est qu'on dit, mettez à jour, mais là, on met à jour, puis on se fait infecter. Fait que là, ça aussi, c'est très particulier comme situation. Puis là, à quel point on est pris dans ce système-là. Fait que toutes les compagnies qui utilisaient ce logiciel-là, il est dit que FireEye, la fameuse fuite de données de FireEye est située avec ça, que les grosses agences américaines qui ont tombé sont probablement à cause de ça aussi. Ça démontre à quel point l'ensemble de notre infrastructure, il est vulnérable, il est problématique. Et quand le DHS tombe, qui sont quand même l'agence, une des meilleures agences de sécurité aux États-Unis, c'est sérieux. On n'a plus affaire avec des acteurs de c'est plus ton voisin dans son sous-sol, dans sa grotte, qui t'attaque et qui t'emmerde. Là, on tombe dans un contexte où tu as du monde brillant, capable, puis ils t'en veulent pour de vrai. Le Vincent est parti à rire, fait que je vais lui laisser un petit minute d'expression de son rire.
Non, mais écoute, tu utilises des termes que j'apprécie beaucoup, là, comme l'homme dans sa grotte, là, où je veux pas discriminer personne, mais c'est l'image qu'on a entendue dans beaucoup de films d'ados, là, le pauvre jeune adulte, gros, roux et boutonnant dans son sous-sol qui s'ennuie, qui... c'est ça qui m'a fait rire. Mais effectivement, juste pour Beneva, par exemple, les nouvelles qu'on a eues, la dernière nouvelle officielle qu'on a eue, c'est que il n'y a pas de données qui ont été compromises, justement, dans l'attaque. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas vu encore de communiqué de presse officiel, que ce soit télévisuel, que ce soit sur le site, etc. Mais il semblerait que l'attaque a été contenue. Ça a été long, ça a dû être éprouvant autant pour la direction que pour l'équipe opérationnelle qui a dû rester debout là, des jours et des jours avec l'équipe justement qui faisait l'analyse. Là. Puis comme Nicolas l'a dit, c'est des mauvais moments. C'est faire l'analyse de ça, ça ne doit pas être facile. Ça prend des outils, ça prend des ressources, ça prend des traces. C'est prendre un risque aussi, faire ces analyses-là. Hein. Ça peut être un vecteur qui pourrait être un déclencheur plus aggravant aussi. Alors, mais c'est quelque chose qui est nécessaire là, dans le contexte.
Oui, c'est malade. Là. Puis tu sais, là, on parle de bénévole, puis promoteur qui est en train de le vivre au moment où on enregistre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui gèrent ça parce que je me suis retrouvé être gestionnaire d'incidents dans plusieurs occasions puis dans plusieurs entreprises et ministères. C'est pas le fun. Comme tu disais, c'est des moments qui sont difficiles. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont dans cette situation-là. C'est complexe, c'est difficile. Puis même rendu en 2020, la gestion d'incidents informatiques est très complexe parce que tu as beaucoup de gens dans l'organisation, des fois qui s'en mêlent, qui ne devraient pas. Puis, ou que l'information ne circule pas bien. Fait que c'est très complexe à gérer, c'est pas simple. Puis, je sais que beaucoup de nos pairs en sécurité qui ont tendance à avoir la gâchette un peu rapide sur l'accusation, sur la dénonciation par rapport à ces entreprises-là. Sans évaluer vraiment la qualité réelle de la sécurité qui est dans ces entreprises-là, quand la maison est en feu, tu commences pas à appeler les journalistes pour expliquer la situation qui est chez vous, tu éteins le feu. Fait que puis en plus, les entreprises qui sont peut-être un peu moins bien outillées ou un peu moins habiles en gestion d'incidents, bien, ils vont monopoliser beaucoup plus de ressources de l'organisation pour éteindre le feu le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on souhaite aussi en tant que consommateur de ces entreprises-là, en tant que bénéficiaire de tout ce qui vit. Donc, on souhaite ça, là, qu'ils règlent le plus vite. Fait que moi, je me sens pas outré que je n'ai pas un récit à la minute près de ce qui se passe chez Beneva ou chez Promutuel, dans la mesure où je sens que ces entreprises-là mettent les énergies nécessaires et auront probablement, puis dans le cas de Beneva, puisque au niveau public, c'est terminé à ce stade-ci, auront le post-mortem nécessaire associé qui vont faire l'exercice souffrant, parce que j'en ai fait plusieurs des post-mortems d'incidents. C'est généralement pas super le fun. C'est quasiment aussi plaisant qu'un audit interne.
Et je suis auditeur interne de carrière. je passe comme du beurre dans l'huile à certaines occasions, mais des fois, on serre un peu plus les fesses quand j'arrive, si vous voyez l'image. Ceci étant dit, je parle de façon très, très générique. L'idée clé là, que Nicolas a mentionnée, c'est une augmentation au Canada en décembre des cyberattaques. Le message à retenir pour vous autres, soyez vigilants. Soyez vigilants. Là. Puis je nomme pas de compagnie en particulier. Là. Il y a une augmentation. Beneva, c'est connu. Promutuel, c'est connu. Il y a l'aéroport de Vancouver, c'est connu. Je sais qu'on est à 4000, 5000 kilomètres. Il y a aussi ce qui n'est pas connu. Fait que soyez vigilants. Il y a une augmentation des attaques. Les appels frauduleux, les courriels étranges qui paraissent des fois très légitimes. Fait qu'il faut simplement rehausser notre vigilance. Être plus dans le doute. Faites comme la philosophie du zero trust. Hein? Appliquez la philosophie où on ne peut pas faire confiance à quiconque, surtout quand c'est un courriel qui n'était pas attendu. La magie n'existe pas. Le Seigneur ne vous écrira pas. Le Père Noël non plus. Et puis les appels mais également. Là.
Semblerait que le Père Noël est immunisé à la COVID-19, par exemple.
C'est vrai.
C'est sorti aujourd'hui. Le Père Noël est immunisé. Il y en a des gens content. Comme ça. Oui, je suis content pour lui, moi aussi.
Je l'aime, le Père Noël, moi. Je suis content pour
parce
lui.
Parce que, tu sais, dans une autre perspective, si on veut le prendre autrement, le Père Noël est peut-être le vecteur d'infection qu'en 2019, on a eu, parce que l'infection a vraiment explosé dans le temps de Noël en 2019. C'est peut-être la cause du Père Noël.
C'est l'agent zéro.
On ne sait pas. C'est une blague, hein? Au cas où, déjà, c'est une blague.
Ça avec humour, là.
Oui. Puis effectivement, quand tu abordes le 0-3, c'est très intéressant. C'est très compliqué pour les entreprises. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour nos entreprises québécoises qui le vivent. On a eu, comme tu mentionnais, nos deux compagnies d'assurance à Québec qui ont subi des avaries importantes. J'espère qu'ils vont réussir à s'en remettre puis faire les travaux qui vont suivre ensuite pour amener ça ailleurs, amener ça dans une zone intéressante. C'est intéressant, du moins pour bénévoles, qu'ils disent qu'ils soient capables d'annoncer ce statut, parce que c'est pas simple, parce que j'ai fait quand même beaucoup d'incidents dans les deux dernières années, puis c'est pas simple de dire que non, il n'y a pas eu effectivement d'accès, oui, non, il n'y a pas donné que fuité. C'est bien. Je suis très heureux pour eux autres, puis c'est une très bonne nouvelle, puis j'espère que cette nouvelle-là est bien appuyée, puis qu'on fait le travail, puis je doute pas des gens qui y travaillent, fait que c'est super intéressant. Mais en plus, tout ça, c'est l'autre spin qui va avec ça. Puis quand on prend de façon mondiale, SolarWinds est une démonstration à quel point un acteur étatique peut intervenir. Puis c'est en ça, puis c'est à ça, on met ça en adéquation avec le fait canadien de l'augmentation. Puis en tant que professionnel, gestionnaire d'incidents et tout ça, je suis un petit peu fâché contre les malveillants. Parce qu'ils risquent de gâcher mon temps des fêtes. Je le sens. Je l'anticipe, là, ça y est. Je me doute que juste pour m'emmerder, ils vont s'arranger que le 24 décembre, il va y avoir quelque chose d'explosif qui va faire tuer tout le monde. Bon, bref. Je vous emmerde un petit peu parce que cette situation-là m'emmerde beaucoup parce que ça va briser ma vie un peu puis la vie de beaucoup de gens dans ces situations-là aussi, là. Mais quand on regarde d'un point de vue mondial, quand on regarde ce qui a été fait avec SolarWinds, puis ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg, là. Qui ont été capables d'infecter un logiciel qui est utilisé par beaucoup de compagnies et que c'est les updates qu'on demande, que les gens en sécurité exigent qu'on fasse, viennent vicier la sécurité de nos compagnies, qu'on se retrouve avec du code malicieux à l'intérieur qu'on a installé parce qu'on a suivi les pratiques de sécurité?
Ouais. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Mais là, c'est vicieux, effectivement. Ça s'est vu sous une autre forme, une forme un petit peu plus... Ben, en fait, c'est le premier podcast qu'on a fait, toi et moi, revenant de Vegas. Le fameux serveur Windows Update qu'on mettait dans une zone démilitarisée qui communiquait vers l'interne pour intervention de l'admin qui allait autoriser ou non l'installation, mais qui était capable de faire du serveur hopping pour ensuite de ça changer le lien vers un faux serveur avec des mauvaises patches qui infiltrait en fait des maliciels. Mais effectivement, c'est vicieux, mais le pirate, lui, il veut atteindre son objectif. Hein? Le terroriste numérique, il veut atteindre son objectif. Il veut s'organiser, il veut vous prendre en otage. Fait que tous les coups sont permis. Je dirais pas tous les moyens sont bons, c'est pas vrai. Mais tous les coups sont permis dans cette zone-là. Là. Fait que, mais là, c'est vrai que c'est vicieux. Là. Surtout... voici les bonnes pratiques. Voici ce que les référentiels puis les autres professionnels proposent comme bonnes pratiques. Tout d'un coup, on les applique, puis ça devient le vecteur. Alors, en espérant que n'arrêtez pas ces bonnes pratiques-là. Bien entendu, mais malheureusement, on va devoir devenir de plus en plus vigilants, vos professionnels, pour éviter la désuétude. Ouais. Ils vont devoir être beaucoup plus vigilants qu'ils l'étaient, puis ne pas faire automatiquement confiance à la source autoritaire qui produit des patchs de sécurité. Il va falloir peut-être recommencer à les tester dans des carrés de sable. Je sais, je parle français, très français. Des sandbox là, pour monsieur.
Ou d'approcher avec un zéro trust aussi.
Oui, effectivement.
Ça viendrait limiter les dommages, ça. Puis, tu sais, j'en connais des organisations qui ont été touchées par SolarWinds. Puis, c'est pas le fun. Parce que, tu sais, puis justement, puis là, tu me rappelles les souvenirs, justement, pour le WSUS, là, le fait d'être capable de s'injecter dans la structure de mise à jour de Microsoft. Je crois que c'est pas mal réglé de nos jours parce que tout est signé, tout est fait. Là. C'est très heureux qu'ils ont rehaussé cette chaîne de confiance-là. Mais même encore là, quand on regarde ce qui se passe avec SolarWinds, la chaîne de confiance, elle est techniquement là, mais elle se trouve être infectée. Puis c'est d'autant plus difficile d'arriver à ça. Fait que là, c'est comment les entreprises arrivent, comment on rehausse la sécurité. Puis là, pour avoir vu beaucoup, beaucoup de clients différents, publics, privés, puis ça, j'en reviens de base, puis probablement que tu vas abonder à mes sens. L'hygiène de base, l'hygiène de cybersécurité de base, déjà, faites juste ça.
Ben, moi, je pense aux entités qui ont plusieurs types de produits de fournisseurs différents. Je dirais pas la complexité, mais la lourdeur administrative que ça va leur imposer pour assurer puis appliquer une plus grande vigilance. Là, tu parles de SolarWinds, mais est-ce qu'un produit connu, je ne sais pas, moi, je veux pas nommer de nom de compagnie non plus, là, mais les différents produits que vous avez qui ont toutes sortes de fonctions dans votre infrastructure, là, que ce soit de la télécom, que ce soit du service web, du service XYZ, on achète de plus en plus, ben je dis pas de plus en plus, mais il y a des boîtes, des appliances qui, pour lesquelles on achète, qui font une affaire en particulier, mais qui viennent d'un fournisseur X. On a 3-4 services, on achète 3-4 boîtes de 3-4 fournisseurs différents. Ça va être ensuite de ça, d'assurer une vigilance autour de ça. Ça va être lourd là, pour les équipes de sécurité opérationnelle.
C'est vraiment pas simple. Puis si on veut pousser la réflexion à ses derniers retranchements, tu sais, quand on installe un logiciel, disons même sur notre ordinateur personnel, en le faisant, même si la plupart des Windows et Mac maintenant demandent des autorisations, puis tu sais, tu as quand même un certain nombre d'avertissements avant l'installation, il demeure que vous faites confiance généralement aveuglément, à un tiers que vous ne connaissez pas, que son logiciel va faire exactement ce qu'il dit, il ne fera pas plus. Puis c'est, là, on embarque dans des zones étranges, puis là, on en parle comme ça. Ça, c'est une chose. D'un point de vue entreprise, c'est sûr qu'on essaie d'assurer que c'est une compagnie de renom, puis tout ce genre de choses-là, sur lesquelles on s'appuie comme espèce de référence ou d'intuition qui nous permet de dire que le logiciel ne fait pas plus. Puis on y croit facilement, dire tout le monde, on va faire ce genre de choses-là. On prend un autre contexte, puis démontrer à quel point là, on fait confiance aveuglément. Apple avec le iOS 14 a changé les règles de vie privée drastiquement. C'est-à-dire que, puis c'est pas tout à fait en action, puisque là, il y a une chicane entre Apple et Facebook, d'ailleurs, où ils appliquent. Puis là, c'est le changement qui va se faire sur les iOS 14, dans la prochaine ou la suivante itération de la mise à jour, c'est que toute consommation d'informations qui permettent d'identifier l'utilisateur va devenir ce qu'on appelle en anglais un opt-in. C'est-à-dire que tu vas devoir autoriser explicitement que le système te traque. Fait que là, on change un modèle très, très différent. Puis comme les gens, quand ils ont commencé à tomber avec iOS 14, la version sans ça, où ils te demandent quand le micro est utilisé, quand la caméra est utilisée, quand j'utilise tout. Fait que là, on est maintenant à l'affût de comment, à quel point les applications viennent utiliser des informations ou des consomment des affaires qu'on ne voyait pas avant. Fait que, puis là, on voit à quel point il y a des compagnies qui sont des crosseurs. Puis ils venaient chercher un paquet d'informations. Puis tu sais, il y en a là. Tu dis, les applications, j'ai effacées parce que là, maintenant, je commence à voir qu'ils essaient de consommer des informations sur le système qui n'avaient aucun lien avec la nature du logiciel que j'utilisais. Là. Fait que là, toi, dude, tu fais quelque chose de louche sur mon téléphone. J'aime pas ça. Puis mon téléphone, comme tous les gens maintenant qui ont des téléphones intelligents Android ou iPhone, là, ça n'a aucune différence. Nos vies sont là-dedans. on prend beaucoup de photos, on texte beaucoup, on parle beaucoup, on fait beaucoup d'activités. Notre vie est là. Fait que de laisser notre vie comme épiée autant que ça par les entreprises, c'est déjà malaisant. On le voit pas, fait que c'est pas grave. Quand on le voit pas, loin des yeux, loin du cœur, on le voit pas, c'est pas grave. Apple ramène au centre de l'attention ce qui est exécuté par les compagnies. Puis j'aime bien l'effort de « on ramène ensemble dans la discussion ». On prend une décision éclairée par rapport à ça. Fait que ça, c'est un exemple personnel de comment les choses changent. En entreprise, on installe les logiciels, puis ils remontent l'information comme ça, puis ils disent des affaires sur nos entreprises, puis malaise.
Vous savez, la loi sur la protection des renseignements personnels est très explicite. Hein? On ne recueille que l'information nécessaire pour l'objet du dossier. En clair, ce que ça veut dire, c'est pour pouvoir saisir, faire vivre, offrir la prestation de service et puis éventuellement fermer le dossier. Ça prend un nombre minimum d'informations, peu importe le type de service que vous utilisez, là, vous apprendrez rien. Mais normalement, c'est juste cette information-là qui devrait être demandée. Et puis, de ce que Nicolas vient de dire, que Apple va maintenant faire la lumière sur ce quoi les applications qui vont se retrouver sur son App Store, devront devoir divulguer les informations qu'ils vont recueillir pour le fonctionnement de leur application. Ça ne veut pas dire que les applications ne seront pas disponibles sur l'App Store, mais ça veut dire qu'il va y avoir une divulgation de ce qui va se passer pour l'utilisateur quand il va l'installer. Donc, une application qui va récupérer des nouvelles, si cette application-là décide de récupérer votre liste de contacts à votre insu, l'objet du dossier, ça n'a rien à voir là, entre vous et moi. Là. Vous voulez consommer de la nouvelle. Vous n'avez pas besoin de fournir votre liste de contacts pour ça. Là. C'est une caricature que je fais, mais c'est exactement ce que Nicolas vient de dire. Là. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que il y a eu beaucoup d'abus. Je n'aimerais pas de compagnie là. À gauche, à droite, pas de GAFAM dans le dossier. Là. Si vous voulez mon avis, ils ont tous abusé, toute la gang. Là. Mais je ne veux pas en nommer un plus qu'un autre. Mais il y a eu de l'abus dans le passé. Puis c'est dommage. On s'est peut-être accommodé de cet abus-là, puis on l'a accepté moralement. Puis on dort bien. Puis là, tout d'un coup, il y a des vols de données à gauche, des vols de données à droite. Puis là, il faudrait qu'on s'exclame, puis qu'on chigne, puis qu'on panique. Ben attendez, là, on a tous un peu provoqué. Ben, c'est pas vrai. On a tous participé à ça. On l'a pas provoqué. On a tous participé, malheureusement, à ça. Mais en étant mal informé, ou en étant peu ou pas informé, ce qu'Apple fait, c'est tout simplement nous informer. Vous trouvez pas ça scandaleux, là? Moi, un Facebook, là, il y avait un article aujourd'hui, là, un Facebook, ils ont fait une pleine page, là, je pense que c'est dans le New York Times. Soyez pas conciliant envers Facebook, là. Facebook le fait depuis des années, malheureusement. Puis ils l'ont fait à votre insu, utilisez votre caméra sans que vous le sachiez. Vous déconnectiez, là, fermiez la session sur votre téléphone. Non, l'application est sur le téléphone, ça reste actif. Ils repèrent vos déplacements. Ils font du profilage. Ils l'ont fait, ils l'ont avoué, ils se sont excusés. Ils ont payé des amendes, mais c'est pas grave. Ils l'ont fait. Mais là, c'est le malfaiteur qui s'exclame devant tout le monde parce que c'est un géant. Non, excusez. Moi, j'aurais pas de pitié pour ça, là. Pas de pitié pour lui, pas de pitié pour quiconque. Mais le fait d'être informé, moi, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être conciliants? Ben oui, il y a des gens qui vont être conciliants. Puis on vous en veut pas, là. Il y en a qui aiment quand même ça, ces applications-là, puis ils vont prendre le risque, tout simplement, là.
Mais ça devient un choix.
C'est ça.
C'est ça. Moi, de mon point de vue, un choix éclairé est un machin. Moi, je suis beaucoup plus confortable à savoir ce que l'application fait et l'encadrement que l'application a est d'autant plus intéressant et propice à une décision éclairée de ma part. Est-ce que tous les gens sont outillés pour faire des décisions éclairées? Non. Surtout dans le domaine des technologies, parce qu'on n'a pas une culture encore, ça prend du temps, puis les gens ne mesurent pas encore tout ça. Puis justement, comme ça, on leur en veut pas. Puis de toute façon, le modèle d'affaires de Facebook est basé sur la revente de nos informations. Quel genre d'informations que Facebook a sur nous? Ça, c'est plus louche. C'est là où on devrait justement savoir ce qu'on a. Les lois canadiennes, même si on pas de mordant, étaient justement stipulées que ces informations-là devaient être cadrées. Ils l'ont jamais été parce qu'il n'y a pas de mordant. Une loi pas de mordant, ça ne sert juste techniquement à rien parce qu'elle n'a pas de capacité d'inciter ou de forcer les gens à agir dans ce périmètre-là. Donc, oui, mais tu sais, est-ce que les gens vont utiliser Facebook? Non, ben, je ne vois pas pourquoi Facebook fait une crise sur la place publique. Ils n'arrêteront pas de... Les gens n'arrêteront pas d'utiliser Facebook, là, mais sauf que les gens vont l'utiliser. Ah, oui, Facebook vient pomper cette information sur moi. Ça, le pas le savoir, ça m'agace. C'est comme quand j'installe le logiciel sur mon ordinateur, puis en même temps, c'est drôle parce que j'imagine que tu étais comme ça aussi. T'sais, tu remontes à peu près 20-30 ans, quand on est au début dans les... dans cet univers-là, on installait à peu près tout et n'importe quoi sur nos ordinateurs, alors on se posait pas vraiment beaucoup de questions. Là.
Un autre fait intéressant, j'ai envie de dire, là je te coupais dessus. Là. Non, un autre fait intéressant, pour démontrer un peu de transparence, souvenez-vous, il y a à peu près 2-3 ans, Facebook, Google, Apple ont mis à disposition de façon manuelle, donc pour chaque utilisateur, à la demande, l'ensemble des informations qui ont été recueillies depuis leur adhésion au service. Et puis, j'ai fait le test. J'ai récupéré mes infos chez Apple, Google. Google sont un petit peu plus, je dirais, transparents là-dessus parce que vous les avez live. De toute façon, vos informations, vous les détruisez ou non, sinon vous les avez live. Mais j'avais récupéré ça de Facebook. Facebook avait été déclaré justement coupable à un certain moment donné, comme j'ai expliqué tantôt, malgré l'application installée, mais non authentifiée. Ils savaient que c'était vous, puis ils pouvaient vous localiser. C'est drôle, dans les éléments que j'ai récupérés de chez Facebook, la géolocalisation n'y apparaissait pas. Autrement dit, les données de géolocalisation, qui est une donnée que je juge peut-être pas confidentielle, mais relativement importante, n'était pas contenue.
Ouais, moi, je dirais confidentielle, parce que, tu sais, si ta géolocalisation était... Parce que, tu sais, en termes de confidentialité, c'est... Est-ce que c'est public, c'est diffusé, tout le monde peut la voir? Il y a juste moi ou mes proches qui le voient.
Non, mais t'as raison. Parce que c'est Vincent Groslot qui était là à tel moment. La fameuse géolocalisation n'était pas présente dans le package qu'on m'a fourni. On a mes amis ajoutés, mes amis supprimés. À l'époque, on pouvait voir, souvenez-vous, en 2015-2016, lorsqu'on allait voir un profil, ça créait une ligne de journal. Ça disait qui était telle personne. Ils ont enlevé ça au fil du temps parce que ça a causé quelques petites chicanes de ménage, mais bon. Ça, on avait ça. On avait tout ce qui était Messenger, la messagerie de Facebook, à qui on avait parlé avec l'ensemble des messages. Ça, c'était volumineux, c'était terrible. Mais tout ce qui était mes déplacements, qui avaient été capturés puis divulgués là, par Facebook, qui était de mauvaise pratique, non, ça, ça n'a jamais apparu. Ce que je trouve un petit peu plate quand une compagnie a envie d'être transparente, justement.
C'était pas un avis de transparence, parce que ça, c'est arrivé au même moment que le RGPD. C'est le RGPD qui les a forcés à aller dans cette direction-là. Puis ça, c'est un des éléments collatéraux du RGPD. Malheureusement, il n'y a pas juste du positif à travers ça. Puis ça serait intéressant de rediscuter avec Damien, parce qu'il avait commencé à amener des réserves. Plus ça avançait, plus... Il était plus critique face à l'effet du RGPD. Probablement avec raison. Au Canada, on ne le vit pas, fait qu'on ne peut pas sentir l'effet du RGPD comme les Européens peuvent le sentir. Donc, ce serait intéressant de voir ça, mais oui, ce que tu mentionnes, c'est arrivé à ce moment-là. Fait que comme ils l'ont rendu disponible aux Européens, les Canadiens ont eu accès. Je ne sais pas s'ils l'ont rendu accessible d'un point de vue mondial, par exemple. Je pense qu'ils ont comme limité un peu la portée, là. Mais la géolocalisation, c'est décevant de ne pas l'avoir. Là.
Bah. Surtout, c'est une information qui est pertinente, là.
Ben oui, parce que si je sais que Vincent Groslo va genre à telle place tous les vendredis soirs, ben ça peut avoir. Ça peut aussi mener des chicanes de couple, là, cela étant dit.
Oui, effectivement. Puis si quelqu'un me recherche, si quelqu'un veut me retrouver, ben. Puis j'ai pas envie, justement.
Ben, il y a ça. Ça revient toujours pour la vie privée, ça revient. Quelle est ta présomption? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « j'ai rien à cacher », que c'est une chose. Fait que là, tu dis « oui, j'ai rien à cacher », bla. Fait que là, tu fais la façon simple de casser, c'est tu fais « ouais, c'est quoi ton numéro de carte de crédit? » Puis là, ils commencent à jamais à « ouais, non, mais c'est pas pareil. » Ben, non, c'est pareil, t'as quelque chose à cacher, donc tu caches ton numéro de carte de crédit. Ça, c'est une chose. Fait que là, t'embarques dans la conversation comme ça, puis tu sais, c'est important de sensibiliser les gens parce qu'on a tous quelque chose... à cacher, mais c'est parce que là, cacher, en tout cas, du moins, de la façon de le mentionner, c'est comme si on avait quelque chose de on n'était pas...
C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif, ce qu'on a caché.
Ouais, c'est ça.
C'est qu'il y a des éléments qu'on ne veut pas, qu'on ne divulgue pas au grand jour ou au grand public, point. Vous avez tous quelque chose que vous voulez garder dans votre intimité. Ben, ça s'arrête ouais. là. C'est pas un jardin secret... de la mort avec... c'est une très mauvaise expression. Les gens qui démarrent en disant « Écoute, dis-moi tout parce que moi, j'ai rien à cacher. » C'est quelqu'un qui veut juste tout savoir parce que c'est des marchands d'informations. C'est pour une mauvaise utilisation d'informations habituellement. Alors. Ils ont quelque chose en arrière de la tête. Mais on comprend ce que tu veux dire, Nick. Là. On a tous quelque chose que nous ne désirons pas divulguer, point.
C'est une meilleure façon de l'exprimer, effectivement, parce que, tu sais, je veux dire, que les gens puissent savoir où je me suis déplacé, où je me suis physiquement. C'est sûr que là, physiquement, je bouge plus beaucoup, mais à l'époque où je bougeais un peu davantage, savoir où je me retrouve, savoir qu'est-ce que je fais, savoir quel magasin que je suis situé. Puis après ça, ben, c'est parce que les gens vont tirer des conclusions sur ma vie sans avoir le contexte. Puis il y a aussi ça dans l'élément, puis ça devient échelant. Parce que toi, est-ce que savoir que tu es allé chercher tu es allé dans tel magasin tous les vendredis soirs, ou tu vas dans tel établissement tous les vendredis soirs, est-ce que c'est une information que tu vas divulguer à tout le monde? Non, parce qu'on a toujours un jardin privé.
C'est une autre façon de le dire, c'est aussi simple que j'aimerais ça maintenir mon privilège de conserver certaines informations simplement pour moi. Je ne sais pas qu'elles vont faire du mal si elles sont divulguées, c'est que je veux avoir un sentiment qu'il y a certaines informations sont à moi, ces informations-là sont à moi pour moi. Ils n'ont pas de valeur, mais il n'y a pas plus de plus-value à les divulguer, mais j'aimerais avoir le sentiment de pouvoir les contenir et contrôler la divulgation de ces informations-là.
Ben, c'est très intéressant de la façon dont tu l'énonces parce que c'est comme... Parce qu'effectivement, la disponibilité de ces informations-là enlève ton autonomie. Puis c'est un peu ça que tu exprimes parce que tu veux conserver ton autonomie. Tu veux pouvoir faire ce que tu veux quand tu le veux sans savoir que quelqu'un te surveille, quelqu'un qui t'en a de ton épaule, qui est « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu as arrêté 5 minutes de plus à tel endroit, pourquoi tu as regardé l'étiquette de tel produit 5 secondes de plus que l'autre, tout ce genre de notions-là, puis quand on le décortique comme ça, ça vient comme ça gratouille l'intérieur des gens parce que, oui, on a des jardins secrets, oui, on a des choses qu'on ne veut pas diffuser, mais qu'on ne veut pas cacher. Puis j'ai bien aimé la distinction que tu as amenée parce qu'effectivement, cacher, ça a comme une connotation négative. Tu ne caches pas. Tu veux juste ne pas divulguer tous tes mouvements, toutes tes pensées aussi, parce que là, ça devient... C'est quand on va aller vraiment plus loin dans la réflexion, est-ce que je veux que quelqu'un soit dans ma tête constamment et lise mes pensées? Non, parce que mes pensées, ce ne sont pas toujours égales, parce que j'ai des moments plus difficiles. On a tous des moments plus difficiles, des moments plus heureux. Des moments plus difficiles, des fois, quand on broie du noir, Puis en sécurité, on voit beaucoup de noir. C'est un peu le résultat. Notre contexte professionnel nous amène généralement à broyer du noir. Fait que si le noir que je broie était diffusé sur Facebook, j'aurais sérieusement un problème. Fait que est-ce que j'ai quelque chose à cacher? Non, parce que j'ai rien de illégal ou à cacher.
Voilà.
Mais je ne veux pas que mes réflexions éphémères, qui n'ont pas de valeur parce qu'elles sont éphémères d'ailleurs, se retrouvent dans un contexte où elles ne sont plus éphémères. Parce qu'une fois que c'est diffusé, ben, puis ça devient permanent et pour la vie.
Ben oui, tout à fait. Puis il y a tout. Comme tu dis, tu veux pas quelqu'un qui t'observe dans ta tête. Moi, je veux pas mon propre satellite, justement, qui me suit constamment.
Non, je veux pas ça. Ça t'enlève ta propre autonomie, là.
C'est la liberté, en fait, là.
Il y a des gens là que pour la liberté, ils veulent pas mettre de masque pour des questions de liberté, là. Fait que, tu sais, ça va jusqu'à cette étape-là. Dans ce contexte-là, je suis en désaccord avec leur position parce que si on l'apprend avec la vraie information scientifiquement prouvée, je crois qu'ils ont tort. Mais cela étant dit, tu vois, fait qu'on voit à quel point, des fois, tu sais, sur des choses comme ça, c'est la même chose pour ce que j'ai dans ma tête, là. Fait que ça, dans ce contexte-là, ben oui, je veux pas que les gens viennent fouiller dans ma tête ou m'imposer des choses. Mais on a glissé sur complètement autre chose parce qu'on parlait des incidents chez nos compagnies d'assurance à Québec, tout le malheur qui était suivi, le fait que maintenant les adversaires auxquels on fait face, puis c'est là où ça je voulais amener, là, puis j'espère que j'ai pas perdu du monde avant qu'on se rende à ces éléments intéressants-là, c'est que ça faut changer la réflexion de comment on gère la sécurité dans nos entreprises. C'est autant toi qui maintenant dans un rôle plus SI que tu l'étais avant, puis moi ça fait longtemps que je suis dans un rôle SI, de sécurité de l'information, ça va devoir moduler différemment comment on va aborder la situation. Parce que maintenant, surtout, il y a des acteurs étatiques qui rentrent dans nos entreprises dans lesquelles, généralement, on ne prenait pas compte dans nos réflexions de risque, qu'on ne prenait pas compte dans nos réflexions de protection des mesures qu'on mettait en place. Qui a détecté que SolarWinds était rendu corrompu? Vraiment pas de monde. Même une compagnie en sécurité n'a pas détecté que ses propres outils qu'il utilise pour sa gouverne interne, ses infrastructures, s'est retrouvé dans un contexte comme ça. C'est sérieux. Puis, j'en profite justement aussi pour dire, parce que les compagnies de sécurité vendent des produits de sécurité. Ils ne vendent pas la sécurité. Ça aussi, c'est important de faire la distinction parce qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas des saints, ils ne sont pas parfaits, ils sont comme les autres, mais il s'avère juste que dans le schéma des choses, ils vendent un produit qui nous aide à être dans une meilleure posture de sécurité. FireEye n'est pas le premier qui tombe, puis à chaque fois qu'une compagnie de sécurité tombe, il y a comme une espèce de grand mouvement médiatique de gens qui s'énervent. Puis là, ça y est, c'est la fin du monde, ils sont en sécurité, ils ne savent pas ce qu'ils font, bla bla bla. L'arrêté, c'est pas ça. L'arrêté, c'est que c'est une entreprise que ce qu'ils vendent, c'est de la sécurité, mais ils ont un département comptable, ils ont des avocats, ils ont des RH, ils ont des humains. Ils mettent pas toujours les meilleures pratiques en place. Des fois, ça glisse. Puis si on prend le cas que c'est vraiment SolarWinds qui était la fuite de ce qu'ils ont fait, ben SolarWinds, c'est par leurs gars d'infra qui ont utilisé ça. Et c'est un excellent outil pour faire de la surveillance d'infra. Et ensuite, c'est ça. Fait que là, on est dans un contexte où, pauvre personne, est-ce que FireEye est à blâmer? Non. De toute façon, il y a plusieurs années, RSA avait été pris dans un contexte. Puis, dans ce cas-ci, RSA était plus en faute parce que la personne des RH avait accès à l'information de sécurité. Qui est louche, ce qui ne devrait pas. Fait que j'espère qu'on résorbe, puis c'est une belle leçon pour tous les autres. Mais cela étant dit, quand il y a des humains, il va nécessairement avoir des erreurs.
Ben, tu l'as dit, le fournisseur spécialiste en sécurité va vendre un produit, va vendre un service, va vendre un mécanisme de sécurité. Il ne vend pas la sécurité, donc la magie de la sécurité. Donc, ça vient avec des impératifs, ça vient avec un modèle, ça vient avec un appétit au risque de la part de l'entité qui va acheter ce service-là. Ça vient avec les compétences des gens aussi qui vont devoir gérer ces services et mécanismes-là. Tu l'as dit, il y a des humains, j'ai parlé de compétences, j'ai pas parlé d'incompétences, j'ai parlé de compétences, tout simplement. Ça va prendre des gens qui sont allumés, qui sont alertes, bien comprendre le service qui est offert, qu'est-ce qu'il y a au contrat, bien comprendre la mécanique qu'ils viennent d'acheter, donc les mécanismes sécuritaires pour atteindre leurs objectifs. Ils vont y aller aussi avec le risque au niveau de l'entreprise qui achète le service. Est-ce qu'ils vont vouloir diminuer la sécurité à un endroit pour une meilleure prestation de service, une meilleure performance, etc. ou ils vont vouloir la rehausser, qui va occasionner peut-être moins une lourdeur administrative, etc. Il y a toutes sortes d'éléments qui vont venir pondérer la qualité de la sécurité, disons-le comme ça, mais encore là, sont pas nécessairement responsables du défaut qui se produit chez vous avec leurs produits. Il y a toutes sortes d'éléments à évaluer, mais comme Nicolas l'a dit, ils vendent pas la sécurité, ils vendent un produit, et puis sur la base de vos critères, puis j'espère que vous faites votre due diligence, vous évaluez plusieurs fournisseurs en fonction de vos critères, que vos critères sont bien établis et que les fournisseurs répondent bien à vos critères quand ils viennent vous faire justement les démos et puis que vous comprenez les démos justement. Autrement dit, critères A, B, C, faites votre top 3 de critères, votre top 5, votre top 10, votre impondérable. Je ne veux pas que ceci se produise, point barre, même si ça réduit la prestation et la qualité de service. Ben, assurez-vous d'émettre vos critères, de faire vos recherches. Puis,
intéressant, oui. Parce que tu ramènes l'analyse de risque, tu ramènes le fait que la sécurité ne vit pas en vase clos. Ça, c'est intéressant, puis ça fait des années que je me bats contre ça. La sécurité sert à protéger un actif qui appartient aux affaires. Et donc, on ne vit pas en vase clos. Donc, les affaires vont nous aider, vont nous guider dans les mesures qui vont être mises en place parce que c'est eux qui vont nous dire à quel point ce qu'ils ont est précieux. Et plus c'est précieux, plus on va mettre les moyens nécessaires.
Puis il y a l'avantage, puis il y a des inconvénients selon l'appétit au risque. Point barre. Puis il y a plein de compagnies qui vendent plein de bons services puis plein de belles bebelles. Une fois qu'ils sont chez vous, les bebelles puis les services, bien, selon l'appétit au risque, des fois, ce qui est dommage, c'est que la réalité versus la démo qu'on a eue, c'est que là, il y a un game changer qui peut se passer. Et là, ce n'est plus la compagnie qui est responsable à ce moment-là. D'où l'importance d'avoir un contrat dûment bien rédigé, les responsabilités qui incombent à chaque partie. C'est pour ça qu'il y a des avocats, comme tu disais, Nick, d'un bord et de l'autre, lors de la rédaction du contrat final. La responsabilité des parties vient pas mal en page 3, 4 ou 5. Là. C'est extrêmement bien expliqué. Puis c'est important de les comprendre aussi, là.
Oui, puis de toute façon, les compagnies de sécurité sont des outils qu'on utilise, un, dans nos entreprises. En même temps, ces dites entreprises-là de sécurité n'ont pas la prétention d'être les meilleures au monde aussi. Ils sont meilleurs dans leur domaine. Fait que si on prend FireEye, ils ont un spectre d'action qui est défini. J'espère qu'ils sont les meilleurs dans leur domaine ou ils essaient d'être les meilleurs dans leur domaine. Mais s'ils sont meilleurs là, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs dans tout. Et ils sont aussi faillibles que les autres. Puis je trouve ça un peu injuste qu'on les stigmatise de cette façon-là. C'est pas ça. Puis également, puis là, c'est là où les gens ont peut-être un peu de misère à faire la distinction. Le message marketing, puis ça, c'est un département à part. C'est pas eux qui sécurisent le système. Ils ont tendance à enfler les choses par rapport à la réalité. Fait que, tu sais, pour relativer, fait que, moi, je trouve pas ça, je suis pas outré par l'affaire chez FireEye, je suis pas outré par ces choses-là. Ça fait juste donner une réalité. Puis c'est en certains égards un wake-up call pour prendre plusieurs entreprises. Arrêtez de lésiner sa sécurité. Les méchants sont vraiment là. Puis les méchants, ils niaissent pas, là. C'est le DHS est tombé, là. C'est pas rien, là. C'est pas genre l'entreprise de mes parents qui traîne dans leur sol, machin, là. C'est le DHS avec les top cerveaux aux États-Unis en cyber, puis ils sont en fait coincés. Fait que c'est important que les PME, parce qu'ensuite les PME sont québécoises ou américaines, deviennent des cibles excessivement faciles. Puis dans les différents énoncés qu'il y a eu dans les dernières semaines, dont Damien aussi a cité d'ailleurs, il y a plusieurs petites PME ou d'entreprises québécoises qui ont été aussi touchées, que leurs moyens de production ont été affectés. Puis là, c'est pas le COVID qui les a affectés, c'est un virus informatique, c'est un attaquant. Puis là, dans ce cas-ci, c'est malheureux parce que, tu sais, surtout dans les PME manufacturières, ils n'ont pas tendance à mettre l'argent parce qu'ils ne sont pas éveillés. Mais quand leurs moyens de production se trouvent à être arrêtés complètement parce qu'ils se sont fait attaquer, puis c'est sérieux, puis ils sont là, puis ils veulent notre argent. Fait qu'ils vont prendre les moyens.
Les dollars. Ils veulent nos pièces. C'est fini les petits concours là, de « je suis le meilleur », là. J'ai des plus gros pipes que toi, là. Non. C'est vraiment des pièces. Des pièces. C'est de l'argent, c'est une business.
C'est du crime organisé, là. C'est tout.
C'est padré. Je pense que Gartner aimait... serait le fun, peut-être, que j'ai accès au prochain Gartner, là, sur les dollars, justement, qui ont été dérobés en cyber, là, qu'on fasse une petite... On va faire un petit épisode statistique, là. C'est des milliards et des milliards. Puis, comme ils disent à chaque année, c'est pour tout ce qui a été divulgué. Nicolas parlait de PME. Il y a des PME, c'est pas compliqué, hein? Ils ne divulgueront pas. Pour eux autres, c'est la fin. Ils vont fermer, ils vont liquider, puis on n'entendra pas parler. On parle de combien, on ne sait pas. Mais pour tout ce qui est rapporté, notamment tout ce qui est compagnie publique, tout ce qui est ministère à travers le monde où ils n'ont pas le choix justement de divulguer. On vous fera des petites statistiques, là, mais c'est des centaines de milliards par année justement qui s'en vont. Appelons ça le crime organisé. C'est le crime organisé, c'est pas compliqué. Là. C'est une branche du crime organisé à cette heure-là. Puis c'est très, très lucratif. Très lucratif. Dans certains cas, ça prend un peu de patience. Dans d'autres cas, c'est très, très rapide, mais au bout du compte, les centaines de milliards qui sont dérobés, là, c'est phénoménal.
Oui, il y a énormément d'argent. J'avais vu des chiffres, là, puis j'étais tombé à terre à quel point ils volaient de l'argent. Oui, si tu peux partager l'information, ça serait le fun qu'on puisse faire juste un épisode de discuter de ces informations-là, de comment tout ça se matérialise, parce que ça va mettre en perspective bien des choses, puis peut-être réveiller un peu les gens sur la situation. Là.
Mais on fera ça point de forme, c'est plate des statistiques. On fera ça juste point de forme. On dira, par exemple, année 2020, année spéciale, année COVID, année cyber, on vous donnera un topo, juste un petit comparatif avec 2019, mais que je tombe ces chiffres là, en 2021. Mais on va faire ça très point de forme parce qu'on ne veut pas vous ennuyer avec ça. Mais c'est pour vous démontrer à quel point c'est extrêmement lucratif. Et puis, dans certains cas, c'est très, très peu d'efforts pour beaucoup de millions de dollars. Dans d'autres cas, c'est beaucoup d'efforts pour quelques centaines de dollars. Mais au bout du compte, ce qui est plate, c'est que c'est du vol, tout simplement. Là, c'est de la prise d'otage, c'est du vol, c'est de l'extorsion. C'est du terrorisme. Mais bon.
De l'extorsion, c'est exactement ça. Fait que oui. Abondamment discuté du sujet. On va en rediscuter à d'autres moments. Fait qu'on va clore l'épisode sur ça. On aura l'occasion de de rejaser de ça en masse de toute façon, mais c'est un peu un état où c'est important que vous preniez conscience que le jeu a changé, qu'on n'est plus, on n'est plus dans un état de licorne.
Où, le Canada est une cible vraiment. Intéressante.
Ouais. Puis, où, à la limite, la licorne, elle insère la dite corne et ça fait pas du bien.
Oui, effectivement. Dites-vous ceci, ça ne va pas aller en diminuant. Il va falloir redoubler de vigilance. Le Canada est rendu, je crois, une très belle cible. On a des belles entités. On a des pièces au Canada. Il y a de l'argent à faire, malheureusement. Alors, soyez vigilants.
Oui, tout à fait. Et sur ça, au prochain épisode.
Pis si c'est pas avant les fêtes, joyeuses fêtes tout le monde. Joyeux Noël.
Pour ceux qui peuvent en avoir un.
Pour ceux. Ben non, pour tout le monde.
Pour tout le monde. Profitez-en même si vous pas. Vous avez. Même si le premier ministre vous a dit que c'était interdit, ayez du fun. Trouvez-vous moyen d'avoir du fun. Et infectez-vous pas, s'il vous plaît.
Je vous en souhaite à tout le monde,
Joyeux Noël.
Tout le monde.
Bon temps des fêtes.